Chapitre 10. L'arbre de vie. Quelques jours à peine après la mort d'Aileen, Hernan, malgré son nouveau statut d'archidruide, quitta Saïmina avec le jeune Fingin. Conformément aux souhaits de l'ancien archidruide, il devait aller faire une proposition de paix à Sarkhan, le chef des tribus Touatan, qui siégeait à présent à Philiden. Il ne leur fallut que quelques jours de voyage, grâce à la célérité de leurs chevaux. En chemin, Hernan se montra fort aimable avec le jeune Fingin. Aileen t'aimait bien, tu sais. Il ne me l'a jamais montré, répliqua le jeune druide avec franchise.
C'est vrai, il était ainsi, tout en mystère. Plusieurs fois, je me suis fait avoir à son jeu. On n'était jamais trop sûr du sens réel de ses plans. Parfois, son attitude laissait croire tout le contraire de ce qu'il pensait vraiment. Ainsi, il t'admirait beaucoup.
Plusieurs de ses décisions m'ont laissé perplexe, confia Fingin.
Il disait que tu ferais un bon membre du conseil, peut-être même un archidruide.
Vous n'êtes pas sérieux?
Si. Je crois qu'il aurait aimé que tu l'accompagnes voir les Touatan. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir avec moi.
J'en suis honoré, archidruide. Hernan n'avait pas encore pris l'habitude qu'on l'appelle ainsi, et le jeune Fingin avait sans doute fait exprès d'insister sur le titre. Une marque de respect, mais une prise de distance en même temps. Comme si le jeune druide ne voulait pas trop entrer dans la confidence d'Hernan. Le soir du deuxième jour, l'archidruide resta silencieux pendant tout le repas, dévisageant le jeune druide comme s'il essayait de lire à travers lui. Après le dîner, il prit enfin la parole.
« Je vois que tu as pris un magistel. »
Fingin resta bouche bée.
« Que... comment le savez-vous ? »
L'archidruide éclata de rire.
« Tu croyais pouvoir le cacher ?»«
Non, » balbutia le jeune homme. « Je pensais vous en parler à notre retour. »«
Et pourquoi as-tu pris un magistel sans notre accord ?»
La situation l'imposait.
« Je vois. » S'agirait-il du jeune Erwan ?
En effet. L'archidruide dévisagea de nouveau son compagnon de route, tout en se grattant le menton.
On ne peut pas dire que tu commences ton office de la manière la plus protocolaire qui soit. Tu as fait cela pour le protéger ?
J'ai toujours voulu qu'il devienne mon magistel. Erwan est mon plus cher ami. Quand il m'a avoué qu'il partait à la recherche de son père, j'ai voulu m'assurer que je pourrais le retrouver s'il lui arrivait quoi que ce soit.
C'est généreux. Idiot, mais généreux.
Pourquoi idiot ? S'offusqua Fingin.
Parce qu'il est amoureux et qu'il n'y a rien de plus idiot que de prendre un magistel amoureux.
Fingin ne put retenir un sourire. Archidruide, vous avez raison. Et j'étais conscient de cela aussi quand je l'ai lié à moi. Et je n'ai pas pensé un seul instant à notre futur statut. Je n'ai pensé qu'à une chose, le danger qui l'attendait.
C'est bien ce que je dis. Idiot, mais généreux. En cela, tu ressembles davantage à Félim qu'à Aileen. Mais honnêtement, je crois que tu as bien fait. Il n'empêche que tu seras puni, non pas pour te corriger, mais pour te libérer des reproches que te feraient certains anciens si l'on se contentait de te pardonner.
Je comprends.
Tant mieux. Mais quand Erwan aura retrouvé celle qu'il aime, il te faudra trouver un nouveau magistel.
L'avenir ne sera peut-être pas aussi simple, archidruide. Hernan tapa sur l'épaule du jeune homme. Il venait de franchir une nouvelle étape, et après 3 jours, ils conçurent même l'un pour l'autre un respect sincère qui les rapprocha fortement. Quand ils arrivèrent enfin, quelques jours plus tard, devant les portes de Philiden, ils furent accueillis par les lances des gardes Touatan. Ceux-ci se mirent à leur poser des questions dans leur langue barbare, et Fingin se retourna vers le vieux druide en haussant les épaules. À sa grande surprise, Hernan, qui maîtrisait bien des dialectes, répondit sans peine. On leur ouvrit la porte, et on les mena jusqu'à la demeure de Sarkhan, en les escortant avec à peine plus de considération que des prisonniers. Sarkhan, juché sur un trône de pierre recouvert de draperies rouges et or, les reçut aussitôt dans le hall de l'édifice avec son interprète. Il avait sans doute été prévenu de leur arrivée beaucoup plus tôt, par des éclaireurs ou des espions.
C'était une logique de guerre. Le chef Tuatan était dans la tenue guerrière de son peuple, le torse nu, couvert de peinture bleue, les cheveux de la même couleur, coiffé en crête sur son crâne rasé de part et d'autre. Il était impressionnant, assis sur le trône au milieu des plus grands guerriers de son clan. Hernan parla le premier, mais cette fois-ci en gaélien, car il ne maîtrisait pas assez la langue des Tuatan pour dire ce qu'il avait à dire de manière efficace.
« Je suis Mas Maldwin, dit Hernan, archidruide au conseil de Saïmina. Je suis venu pour trouver un accord de paix. »
L'interprète traduisait au fur et à mesure les paroles de l'archidruide au chef des clans qui siégeait dans un large trône. « Sarkhan vous écoute, » répondit l'interprète.
« Nous voulons offrir nos services aux Tuatan pour trouver une solution pacifique avec les habitants de la Gaélia. »
Sarkhan répondit d'un ton sévère à la traduction que lui fit son assistant. « Les Tuatan ne cherchent pas de solution pacifique. »
« Êtes-vous prêt à fournir l'effort de guerre suffisant pour battre à la fois la Galassie, la Terre Brune, la Sarre, l'Arcour et la Bisagne ? J'en doute fort. Nous nous dirigeons vers une impasse. Si vous ne trouvez pas un accord dans les prochains jours, vous ne résisterez pas aux armées des nations que vous attaquez et qui s'uniront contre vous. Sans l'aide du Conseil, demain vous perdrez la guerre, une nouvelle fois. Avec notre aide, vous pourrez peut-être retrouver une terre qui vous appartienne. Il n'y a pas d'alternative. »
Sarkhan frappa du poing sur l'accoudoir de son trône.
« Nous n'avons pas besoin de vos conseils, » traduisit l'interprète. « En revanche, c'est vous qui avez besoin des manites qui sont en notre possession, et c'est l'unique raison de votre présence ici. Sarkhan est disposé à vous les offrir si vous l'aidez à reprendre toute l'île. »
« C'est inacceptable, » répondit Hernan en essayant de cacher la colère qui montait en lui.
« Alors, retournez d'où vous êtes venu !»
Fingin hésita un instant avant de prendre la parole à son tour. Il regarda l'archidruide, vit que celui-ci réfléchissait et décida qu'il devait dissimuler l'hésitation d'Hernan en poursuivant à sa place.
« Vous ne pourrez composer sans le conseil. Nous sommes les enfants de la Moïra. » Et si vous refusez notre proposition, vous irez contre sa volonté. Nous ne voulons pas vous imposer notre choix, nous voulons vous aider à suivre le chemin de la Moïra. Et ce chemin ne vous permettra pas de retrouver la Gaélia telle qu'elle était avant l'arrivée des Galassiens.
Sarkhan levait un sourcil intéressé à mesure que son interprète chuchotait à son oreille.
En revanche, continua Fingin, nous pouvons ensemble remodeler le pays à votre avantage. Votre ennemi le plus redoutable ne serait pas la Galassie si vous continuiez votre attaque. Ce serait Arcour. En trouvant un accord de paix avec la Galassie et la Bisagne, vous pourriez vous débarrasser de l'Arcour et vous contenter du territoire sur lequel nous sommes aujourd'hui.
Si Arcour est un ennemi plus dangereux, pourquoi ne pactiserions-nous pas avec lui plutôt qu'avec les larves de Galassie ?
Parce que les druides sont en Galassie, et que si vous vous liez à Arcour, vous déclarerez la guerre aux druides, et donc à la Moïra.
Sarkhan resta silencieux un long moment. Il avait sans doute prévu cet instant, mais pas si vite.
Comment pourrions-nous être sûrs que vous nous aiderez à battre Arcour ?
Demanda l'interprète.
La Galassie, la Sarre et la Bisagne ne demandent que ça, reprit Hernan avant Fingin. La Terre Brune reste neutre, et Arcour a refusé la proposition de paix que nous voulions lui offrir. Si vous confiez les manites dont vous disposez au Conseil des Druides, alors nous pouvons vous garantir la victoire. Les manites sont des armes puissantes dont vous ne pouvez vous servir sans nous. Acceptez cet accord, et nous mettrons les manites à votre service.
Sarkhan discuta alors longuement avec son interprète et deux autres chefs de clan qui étaient à ses côtés. Fingin et Hernan se lancèrent un regard complice, et l'archidruide adressa même un sourire à son jeune subordonné.
« Sarkhan réfléchira à votre offre quand vous lui aurez amené la reconnaissance du territoire que nous avons déjà conquis, signé par le roi de Galassie et le conseil des druides. Revenez alors à Philiden, et nous négocierons. »
Hernan salua le chef des clans. Il savait qu'il ne devait pas laisser filer sa chance.
« Vous faites le bon choix, Tharkan, et nous serons de retour dès que possible. »
Quelques instants plus tard, les deux druides galopaient déjà vers Saïmina. Aléa fut la dernière réveillée. Elle trouva ses quatre amis assis devant le feu, les uns à côté des autres, et songea qu'ils avaient l'air étranges. Ils regardaient tous dans la même direction, derrière elle, vers l'intérieur de la forêt. Ils ne lui dirent même pas bonjour. Perplexe, elle se retourna lentement pour voir ce qui accaparait ainsi leur attention. Plus loin, assis sur le sol, elle découvrit la silhouette élégante d'un être gracieux qui ressemblait à la créature mystérieuse qu'elle avait vue en songe. Il était mince, grand, musclé. Il avait les cheveux longs, les oreilles hautes et pointues, et surtout, sa peau semblait faite de bois. Un sylve. Il ressemblait à Oberon, mais Aléa était convaincue qu'il ne s'agissait pas de lui.
C'est...
un sylve, oui, confirma Félim. Il est assis là à nous observer depuis un long moment, mais chaque fois que l'un d'entre nous se lève pour tenter de l'approcher, il s'enfuit et ne revient que lorsque nous sommes de nouveau tous assis près du feu.
Il est magnifique, ajouta simplement Aléa.
Oui, mais il est agaçant,
rétorqua Mjoln. Cela fit rire Galliad, mais Aléa ne quitta pas le sylve des yeux. Elle hésita un instant, puis déclara « Je vais aller le voir. » Et sans hésiter, elle se mit à marcher vers le sylve, d'un pas lent, mais assuré. L'habitant de la forêt se leva aussitôt, mais au lieu de fuir, cette fois, il attendit. Il avait l'air nerveux, prêt à partir au moindre faux pas de la jeune fille, mais Aléa le regardait droit dans les yeux, sûre d'elle. Elle savait intimement qu'il était là pour la voir, elle. Il était venu la chercher, et il ne fuirait pas. Elle savait. Il était venu les guider. Quand elle ne fut plus qu'à quelques pas, le sylve fit le geste de se rasseoir. Il exagéra ses mouvements, et Aléa comprit qu'il lui demandait de l'imiter. Elle s'assit donc en face de lui. La distance qui les séparait était tout juste de la longueur d'une grande épée. C'était sans doute pour le sylve une précaution. Elle sourit.
« Vous nous avez appelés cette nuit, »
prononça le sylve en gaélien avec difficulté. Même si on sentait qu'il n'avait pas l'habitude de parler cette langue, sa voix était douce et claire.
« Je vous ai cherché, oui, » expliqua Aléa. « Vous parlez notre langue ?»«
Maintenant, oui, certains d'entre nous. »« Que cherchez-vous ?»
Nous voulons aller à Brocélia, sans passer par la plaine.
Pourquoi ?
Demanda simplement le sylve, qui ne paraissait pas étonné. Aléa eut le sentiment qu'il connaissait déjà la réponse.
Parce que je suis recherchée et que je dois m'enfuir en secret, sans être vue.
Pourquoi ?
Insista le sylve.
Parce que je possède quelque chose qu'on veut me voler.
Pourquoi ?
Demanda encore le sylve, d'un ton monocorde, avec l'entêtement d'un enfant. Aléa ne savait comment s'y prendre.
Elle voulait mettre fin à ses questions.
Elle se demandait ce que le sylve attendait en réalité. Il cherchait quelque chose.
« Parce que les hommes sont méchants ? »
essaya-t-elle. Cela fit rire le sylve, et Aléa vit alors combien il était beau. Elle rit avec lui, en haussant les épaules.
« Mais pourquoi Brocélia ? »
reprit le sylve.
« L'un des vôtres m'attend là-bas. Oberon. »
Le sylve resta muet. Aléa se dit qu'il avait enfin sa réponse et qu'il ne poserait plus aucune autre question. Il se leva et dit simplement
« Vous et vos amis, suivez-moi. »
Aléa n'eut à faire qu'un geste et ses quatre compagnons la rejoignirent, médusés.
Vous devez laisser vos chevaux,
expliqua le sylve. Galliad libéra les montures, et sous le regard triste du nain, qui s'était attaché à Alragan, les fit fuir d'un seul coup de paume sur la croupe. Les cinq bêtes partirent au galop vers la plaine.
Et maintenant, vous devez me suivre. Toujours.
Le sylve n'ajouta plus un mot. Il marcha droit devant, vers le cœur de la forêt. Et les cinq compagnons lui emboîtèrent le pas, les uns derrière les autres, sans rien dire. Imala n'avait pas bougé depuis la veille. Son flanc lui faisait encore mal, et elle avait de la peine à se remettre de sa peur et de sa surprise. Pourquoi les verticaux s'étaient-ils soudain mis à l'attaquer? Il y avait quelque chose d'étrange dans leur comportement. Il lui semblait qu'ils s'en étaient pris à elle sans vouloir la manger, et ce ne pouvait être pour se défendre non plus, se dit-elle, puisqu'elle ne s'était pas montrée agressive. Alors pourquoi l'avait-il ainsi assaillie? C'était une fureur meurtrière qu'Imala ne pouvait comprendre. Les animaux tuaient pour manger, mais les verticaux, eux... Au milieu de la journée, elle commença à avoir faim, et elle se décida à se lever pour retourner vers la forêt. C'est alors qu'elle aperçut au loin l'équipe étrange qui approchait. Il y avait une dizaine de verticaux, montés sur des chevaux. Ils étaient armés de bâtons, de fourches et d'arcs, et semblaient balayer la lande du regard à la recherche de quelque chose. Imala comprit d'instinct que c'était elle. Les verticaux venaient pour la tuer. La louve fila aussitôt vers la forêt, aussi vite qu'elle put, mais elle entendit l'instant d'après les cris des verticaux et le bruit des sabots de leurs chevaux qui s'étaient mis au galop et semblaient s'approcher à une vitesse étonnante. Elle était repérée. La chasse commençait. Les cavaliers se déployèrent de droite comme de gauche pour pouvoir prendre la louve à revers lorsqu'elle ne pourrait plus soutenir un tel rythme de course. Ils hurlaient des paroles hystériques, criaient leur envie de tuer. Imala était terrorisée. Elle se dit qu'elle ne tiendrait pas longtemps à détaler ainsi et se demanda si elle pourrait au moins trouver refuge au milieu des arbres de la forêt. Mais la lisière était encore loin et les chevaux continuaient de gagner du terrain. Soudain, une flèche la frôla et se planta à côté d'elle. Imala fit un bond de côté et changea brusquement de direction. Une autre flèche la manqua de peu. La louve essaya d'aller plus vite encore, mais elle était déjà à bout de force et son flanc lui faisait mal chaque fois que ses pattes heurtaient le sol. Elle vit alors les chevaux qui remontaient de chaque côté de sa course. Ils seraient bientôt partout autour d'elle et elle ne pourrait plus leur échapper. Devant elle, la lisière de la forêt s'approchait lentement. Trop lentement. Bientôt, les flèches recommencèrent à tomber, mais le galop des chevaux empêchait les chasseurs de viser correctement et Imala parvint encore à les esquiver. Elle continua sa course, sous la pluie de projectiles. Les chevaux se rapprochaient dangereusement, à droite, à gauche et derrière elle. Quand enfin elle arriva au pied des premiers arbres, les chasseurs n'étaient plus qu'à quelques foulées. À peine avait-elle franchi le premier taillis qu'elle reçut une flèche dans le dos. Le projectile s'enfonça sous sa chair et ricocha contre sa colonne vertébrale. Elle s'en débarrassa d'un seul coup de rein, mais la blessure était profonde et la douleur ralentit sa course. Heureusement, la forêt devenait de plus en plus dense et gênait les chevaux. La louve savait que si elle voulait leur échapper, il fallait se faufiler dans des bosquets épais où il perdrait sa trace. Mais elle avait du mal à supporter la douleur. Elle changea habilement de direction plusieurs fois, en essayant de semer ses poursuivants, mais soudain, elle se retrouva face à l'un d'eux. Il s'était arrêté devant elle, s'était dressé sur ses étriers et pointait vers elle la flèche de son arc tendu. La louve tenta de faire demi-tour, mais elle perdit l'équilibre et roula à terre. Lentement, le cheval s'approcha, et bientôt Imala vit le chasseur juste au-dessus d'elle. Elle aperçut la pointe de la flèche prête à la transpercer, l'arc tendu à l'extrême, et au-delà, elle vit les yeux de son ennemi, où elle eut simplement le plaisir de donner la mort. Le chasseur souriait. Il allait la tuer. D'un nouveau coup de rein, avec les dernières forces qui lui restaient, la louve se projeta sur le côté au moment même où le chasseur lâchait la corde de son arc. La flèche se planta violemment dans le sol, à l'endroit précis où un instant plus tôt s'était trouvée la gorge de la louve. Imala se jeta sur les pattes du cheval qu'elle mordit avec rage. L'animal se cabra, le chasseur perdit l'équilibre et tomba à la renverse. Alors que le cheval s'enfuyait en boitant, la louve vit le vertical allongé sur le sol. Elle ne prit même pas le temps de réfléchir. Jamais elle n'aurait osé attaquer un vertical debout, mais au sol, il perdait toute sa superbe et toute menace pour elle. Elle sauta vers sa gorge, qu'elle saisit à pleine gueule. Le chasseur se débattit violemment, mais il s'était déjà brisé la colonne vertébrale dans sa chute et ne résista pas longtemps à la louve en furie. Il mourut entre les crocs de l'animal qui l'avait poursuivi. Imala lâcha enfin sa prise et vit alors les autres chasseurs qui approchaient. Ils avaient entendu les cris de leurs compagnons et le virent étendu à terre, immobile, la gorge ensanglantée. Certains descendirent de leur monture en hurlant, et d'autres se mirent à tirer leurs flèches sur la louve qui partit de nouveau au galop. Le goût du sang sur ses babines l'avait excitée, et elle avait retrouvé en tuant ce chasseur une énergie nouvelle. Elle passa entre deux chevaux qui arrivaient vers elle, en restant le plus près possible du sol, sans perdre de vitesse. Elle reçut au passage un coup de bâton qui lui fit perdre l'équilibre, mais elle se releva aussitôt et s'enfonça dans les herbes hautes d'un taillis. Elle courut ainsi jusqu'à ce que ses pattes ne puissent plus la porter. Elle entendait les voix des chasseurs dans le lointain et se dit qu'elle était parvenue à les semer. Elle se laissa tomber à terre, à bout de force. Après avoir retrouvé sa respiration, elle rampa jusqu'à un tronc mort et creux, au fond duquel elle se tapit. Aléa n'aurait pu dire combien de temps ils avaient marché dans la forêt quand elle remarqua soudain la splendeur du décor où ils se trouvaient. Les arbres étaient devenus beaucoup plus larges. Ils étaient anormalement massifs et leur écorce épaisse semblait gonflée de sève, prête à exploser. Des lianes vertes et brunes pendaient autour des troncs. Le sol était couvert d'une tourbe mousseuse qui s'enfonçait légèrement à chaque pas. Et de partout surgissaient des plantes gorgées d'eau. Il n'y avait plus un bruit, pas même le chant des oiseaux. C'était une clairière à part, comme un autre monde au milieu de la forêt. La compagnie continuait de suivre le Sylve en silence, émerveillée par ce brusque changement de décor. Bientôt, ils virent qu'ils se dirigeaient vers un arbre dont la base était tout à fait gigantesque, si large même qu'on aurait dit une maison. Les creux sombres sous les racines étaient si hauts que des hommes pouvaient sans doute y entrer. Et justement, le Sylve les y mena. Quand ils arrivèrent au pied de l'arbre, ils découvrirent un tunnel obscur qui plongeait sous la terre.
« Voici l'une des entrées vers Brocélia, » expliqua le Sylve.
« Ici, tout simplement ?» s'étonna Aléa. « Mais n'importe qui pourrait la trouver en cherchant dans cette forêt ?»«
Non, » s'amusa le Sylve. « Pas n'importe qui. Nous ne sommes plus dans la forêt. »
Aléa eut un geste de surprise. Que voulait-il dire ? Cette partie étrange de la forêt était-elle donc inaccessible aux hommes sans l'aide d'un Sylve? Pourtant, il lui avait semblé qu'ils avaient marché tout droit.
« Nous allons descendre là-dedans »
demanda Mjoln en désignant le gouffre sous les racines de l'arbre.
« Vous, pas moi ?» précisa le Sylve. « Moi, je reste ici. »
« Et combien de temps faudra-t-il pour rejoindre Brocélia ? Êtes-vous sûr que nous n'allons pas nous perdre ?»
Vous vouliez un chemin secret? C'est le meilleur. Si vous avez le cœur sincère et courageux, vous trouverez la sortie. Les Sylves s'en sortent toujours vivants. Presque toujours.
Attendez!
Cria Mjoln, mais c'était déjà trop tard. Le Sylve avait disparu en riant. Galliad fit quelques pas à l'entrée du gouffre sous les racines, l'épée au poing.
On va quand même pas entrer dans ce trou?
S'écria Mjoln, inquiet.
On ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Ah ça non, pas de trou, pas fou.
Nous devons faire confiance aux Sylves, Mjoln, et les Érylim sont sûrement déjà sur nos traces.
Le druide, qui avait inspecté l'entrée en silence à son tour, prit enfin la parole.
Aléa a raison, cher nain. C'est la meilleure solution qui s'offre à nous. Et de quoi avez-vous peur? Vous êtes accompagné de l'un des plus grands guerriers du pays, d'un druide, d'une barde et d'une jeune fille fort courageuse, n'est-ce pas ?
Le magistel posa son lourd sac à dos sur le sol.
Avant d'entrer là-dedans, vérifions que nous avons assez de vivres.
Il sortit de son sac un peu de nourriture qu'il redistribua équitablement, puis en tira plusieurs torches.
Voilà de quoi nous éclairer. Il vaudrait mieux les protéger de l'humidité sous vos couvertures.
Il aida ensuite Aléa et Mjoln à préparer leur propre besace en mettant sur le dessus les choses qui lui semblaient les plus utiles dans un souterrain,
puis il vérifia les armes de tout le monde. Quand le magistel parut enfin satisfait, Aléa tendit la main au nain et s'engouffra sous les racines en le tirant derrière lui. Mjoln parut stupéfait et n'osa pas résister. Les trois autres, un à un, les suivirent dans les ténèbres du tunnel.
« Satané Sylve !»
grommela le nain dans sa barbe.
« Qu'est-ce que c'est que cette grotte? Ah, ma lanceuse de cailloux! Il faut bien qu'un nain soit fou pour te suivre là-dedans. Hein? Complètement faux !»
Après quelques pas, quand la lumière du jour eut totalement disparu derrière eux, Galliad passa devant et alluma une torche. En marchant, Aléa essayait de trouver le contact du Saïman. Elle avait beau avoir entraîné le nain derrière elle, elle n'était pas plus rassurée que lui. Le tunnel continuait de s'enfoncer dans le cœur de la terre, et l'air devenait de plus en plus humide. Mjoln, tout au bout de la file, poussa un cri en apercevant des rats qui couraient le long du couloir.
« Sale bête! Bah! Allez-vous-en !»
Après une heure de marche, le tunnel cessa de descendre et le sol devint enfin horizontal. Personne n'osait parler. L'atmosphère était si pesante que tout le monde, y compris Félim et Galliad, semblait tendu. Faye s'alluma une torche à son tour et se mit à chanter, devinant que ses compagnons avaient besoin d'être encouragés. Aléa, tout en continuant de marcher, trouva enfin la lumière à l'intérieur de son front. Une petite flamme réconfortante sur laquelle elle se concentra. Elle n'entendit plus les pas des autres, mais seulement le battement de son propre cœur. Et elle ne sentit pas non plus le froid qui glaçait ses compagnons. Après une longue marche, ils arrivèrent soudain devant un mur où le tunnel se terminait sur trois lourdes portes de pierre.
« Les ennuis commencent !»
grogna le nain. Galliad essaya de pousser la porte centrale, sans succès.
« Il n'y a pas de serrure ni de poignée ?» demanda Face.
« Rien du tout. » répondit Galliad tout en poussant une autre porte de toutes ses forces.
« Pas de levier ou de mécanisme quelconque ?»
demanda Mjoln.
« Non. »«
N'y a-t-il aucune inscription sur les murs qui puisse nous aider ?»
demanda Félim.
« Une carte ou quelques symboles ?»
Faith et Galliad promenèrent leurs torches près des parois.
« Je ne vois rien, » soupira le magistel.
« Attendez !» s'écria Face. « Attendez, regardez, là, sous la couche de terre. »
Elle frotta délicatement la boue qui couvrait la paroi, là où tremblait la lumière de sa torche. Une pierre polie, encastrée dans le mur, apparut progressivement. Quelque chose était gravé dessus.
« Je n'arrive pas à lire. Ce n'est pas du gaélien. »
Félim s'approcha derrière elle.
« Ce n'est pas du sylve non plus !»
s'étonna-t-il.
« C'est du touatan. Voilà qui est intéressant !»«
Qu'est-ce que cela signifie ?» le pressa la jeune Aléa.
« Cela signifie peut-être que ce tunnel a été construit par les touatan il y a très longtemps. »«
Les touatan ?» s'étonna la jeune fille. « C'est étrange. »« Pas tant que ça, » rétorqua la barde. « Pourquoi ?» Parce que, selon la légende, les Touatan vivent sous la terre.
Et que veulent dire les inscriptions?
S'impatienta le nain.
Vous savez lire le Touatan, Félim, n'est-ce pas?
Oui, mais les lettres sont abîmées. J'ai besoin de plus de lumière.
Galliad et Face approchèrent leurs torches. Au même instant, Mjoln poussa un cri derrière eux. S'exclama-t-il en faisant sursauter tout le monde.
« Quoi ?»«
Des inscriptions ! À côté de chaque porte, regardez ! Il y a quelque chose de gravé !»
Le druide déchiffra les inscriptions. C'était des chiffres.
« 0 devant la première, 4 devant la seconde et 8 devant la troisième. »«
Bizarre !» murmura Aléa.
« C'est une énigme !»
déclara Félim.
Oh, oh non, mais je rêve. Qu'est-ce que c'est que cette idée de mettre des énigmes devant les portes? Oh, ces Touatan ne pouvaient pas mettre des serrures comme tout le monde.
048,
énonça le druide.
Cela rappelle quelque chose à quelqu'un ?
Oui, c'est l'âge de mon petit frère !
S'exclama Mjoln en riant. Félim, avez-vous déchiffré l'inscription sur la pierre ? Demanda le magistel.
Attendez, je ne suis pas sûr. C'est une forme ancienne du Tuatan. Je n'ai pas l'habitude d'en lire. Cela fait si longtemps. Vous savez, un druide doit savoir lire, mais ne se sert que très rarement de l'écrit. Alors du Tuatan, vous imaginez bien que j'ai du mal. Car... Oh, je ne vois rien. Karandoya. Et ensuite là, je crois que c'est... Mintoramatab. Oui, oui, c'est bien cela. Karandoya Mintoramatab. Ça doit vouloir dire « la clé est là où se divisent les deux autres » ou quelque chose comme ça.
« C'est bien une énigme », confirma Faith. « Vous ne devriez pas avoir de mal à trouver, Félim, vous qui aimez tant parler par énigme ?» se moqua Aléa. Félim partit en retrait en se grattant le menton. Galliad inspectait toujours les portes. Derrière lui, le nain s'impatientait.
« Ça ne veut rien dire. C'est une farce des Tuatan. Moi, je dis que nous devrions enfoncer la porte du milieu et ne pas perdre notre temps avec des devinettes idiotes. »
« Là où se divisent les deux autres, » répéta Aléa pensivement. « Les portes ne sont-elles pas fendues à un endroit ? Ce pourrait être l'explication ?»« Non, » répliqua Faith. « Puisqu'il faut trouver une clé, il faut trouver une serrure, vous ne croyez pas ?»«
Je ne vois rien qui ressemble à une serrure, » l'assura Galliad.
« Vous ne savez peut-être pas chercher ?» Soudain, Félim frappa dans ses mains derrière eux. Il revint vers les trois portes d'un pas décidé.
Il ne s'agit pas d'une clé à proprement parler, mais plutôt de la solution. Puisque dans l'énigme, il y a une clé et deux autres, il y a donc trois éléments pour résoudre le problème. Je suppose que ce sont les trois portes, ou les trois chiffres qui les ornent, là où se divisent les deux autres. Il s'agit donc peut-être de diviser deux de ces chiffres l'un par l'autre, et si l'on obtient le troisième, la porte qui lui correspond doit être la bonne. C'est un jeu d'enfant !
S'exclama le vieil homme fièrement.
« J'ai rien compris !»
pouffa le nain. « Ça serait une bonne explication, » reprit la barde. « Mais je ne vois pas de solution. 4 divisé par 8 ne fait pas 0. 8 divisé par 4 ne fait pas 0. 0 divisé par 8 ne fait pas 4, et ainsi de suite. Il n'y a aucune combinaison qui fonctionne. »
« En effet, mais... »
Félim s'approcha lentement de la porte qui portait le chiffre 8. Il regarda le symbole de plus près, puis délicatement, il le fit pivoter de la main gauche. La petite pierre se retourna jusqu'à être à l'horizontale.
« 4 divisé par 0 est égal à l'infini. Et le symbole de l'infini dans l'algèbre Tuatan est un 8 couché. »
La lourde porte de pierre se souleva lentement avec bruit. Le sol tremblait. Ils firent tous un pas en arrière.
« Félim, vous êtes un génie !» s'exclama la barde.
« Et ces Tuatan étaient de sacrés constructeurs !»
ajouta Mjoln avec admiration.
« De fins mathématiciens !» termina Félim.
Le courant d'air qui s'échappa sous la porte fit vaciller la flamme des deux torches. Il faisait encore plus froid de l'autre côté. Quand la grande dalle de pierre eut complètement disparu dans le plafond, Galliad dégaina de nouveau son épée.
« Allons, il me tarde de sortir de ce tunnel. »
Dirigeant sa torche aussi loin qu'il le pouvait devant lui, il ouvrit la marche sans plus attendre. Les autres le suivirent sans se poser de questions. Il fallait avancer. Il marchait ainsi depuis longtemps, quand le tunnel se transforma progressivement en rivière souterraine. Plus ils avançaient, plus ils s'enfonçaient dans une eau gluante et noire qui s'infiltrait dans leurs vêtements et leurs bottes. Les bruits de succion de leurs pas sous l'eau se réverbéraient contre les parois humides du couloir.
« Dis, lanceuse de cailloux, on devrait peut-être faire demi-tour !»
suggéra le nain qui, lui, avait de l'eau jusqu'à la taille. L'écho du tunnel donnait à sa voix un étrange timbre métallique. Galliad s'arrêta et laissa passer Aléa et Faith devant lui,
Il voulait prendre Mjoln sur ses épaules. Mais au moment où le magistel tendait les bras pour porter le nain, celui-ci fut violemment aspiré sous l'eau. Aléa poussa un hurlement de terreur. Une créature longiligne aux écailles verdâtres venait d'attraper Mjoln par les jambes et l'entraînait déjà sous la surface. Galliad n'hésita pas un instant et courut à la poursuite du monstre. Au même instant, une seconde créature surgit, dressant la tête hors de l'eau et s'immobilisant, menaçante, devant Aléa. Sa gueule ressemblait à celle d'un énorme serpent. Des filets de bave coulaient entre ses crocs acérés et ses yeux jaunes reflétaient la flamme de la torche de Face. Aléa eut à peine le temps de saisir l'épée à sa taille. Le reptile s'élançait déjà sur elle dans un sifflement strident. La jeune fille fit un bond en arrière, évitant de justesse la gueule du monstre qui se referma tout près de son visage, et elle tomba dans l'eau aux pieds de Face. D'une main, la barde rattrapa Aléa, et de l'autre, elle donna un grand coup de poignard circulaire. Le monstre battit en retraite, puis se dressa de nouveau, gueule ouverte. Un sifflement strident jaillit du fond de sa gorge. De l'autre côté, Galliad avait du mal à rattraper le monstre qui avait emporté Mjoln. Le nain luttait pour sortir la tête hors de l'eau et hurlait quand il y parvenait. Les crocs de la créature s'enfonçaient dans la chair de ses jambes et serraient de plus en plus fort, déchirant les muscles un à un. Quand il jugea qu'il était assez près, Galliad plongea vers le monstre en abattant son épée aussi loin qu'il put pour éviter les jambes de son ami et en gardant sa main gauche hors de l'eau pour ne pas éteindre la torche. Sa lame s'enfonça à peine dans les écailles de la créature, qui se dégagea facilement et recula vivement, sans lâcher prise. Le magistel se releva, ruisselant. L'eau boueuse ralentissait ses mouvements. Il voulut reprendre sa course, mais brusquement, le monstre s'enfonça sous l'eau et disparut tout à fait avec Mjoln. Galliad s'approcha lentement. Une grosse bulle d'air remonta à la surface. Il fit un pas en arrière. Il attendit, promenant la flamme de sa torche au-dessus de l'eau. Mais il n'y avait plus un bruit de ce côté-ci. Plus rien.
« Mjoln !»
appela-t-il en vain. Ils avaient disparu. Galliad fit volte-face pour voir comment s'en sortaient ses compagnons. Au loin, il vit l'épée de Félim s'enflammer de lueurs bleutées, mais il n'arriva pas à distinguer Face et Aléa. Il se remit à courir dans l'autre sens pour leur porter secours. Quand le magistel arriva auprès d'eux, Félim levait les mains au-dessus de sa tête. Le druide poussa un cri qu'on aurait dit de douleur, et soudain, une boule bleue éblouissante s'échappa de ses doigts et partit comme une flèche vers le monstre. La boule incandescente explosa contre la tête de la créature dans un vacarme assourdissant. Le magistel tourna la tête pour se protéger. Quand il regarda de nouveau en direction du tunnel, le corps de la bête flottait mollement à la surface. Aléa et Face étaient adossés au mur. La jeune fille tremblait.
« Qu'est-ce que c'était que ces horreurs ?» demanda la barde.
« Des hydres !»
répondit Félim.
« Où est Mjoln ?»
s'écria Aléa, réalisant que le magistel était revenu seul. Galliad était essoufflé.
« Il a disparu sous l'eau. Je les suivais et soudain, plus rien. » Ce monstre a dû l'emmener dans sa tanière. Il doit y avoir un passage sous l'eau.
Il faut aller le rechercher, lança la jeune fille paniquée.
Retournons à l'endroit où il a disparu,
suggéra Félim en posant une main sur l'épaule d'Aléa. Galliad alluma une nouvelle torche et la tendit au druide. Ils remontèrent le tunnel les uns derrière les autres. Aléa était terrorisée. Elle ne pouvait plus supporter le bruit de l'eau sous leurs pieds. Elle aurait voulu sortir, voir le soleil, sentir le souffle du vent.
Mais il fallait absolument sauver Mjoln.
Elle espérait seulement que le monstre ne l'avait pas tué. Non, c'était impossible. Pas ici. Pas comme ça. Elle prit la main de Face à côté d'elle et ne put retenir ses sanglots. Elle ne voulait pas que Félim l'entende.
Ils ont disparu ici, expliqua Galliad en désignant un point dans l'eau.
« Il doit y avoir un petit tunnel sous la surface, »
supposa Félim.
« Il faudrait sonder ces murs. »
Le magistel ne se fit pas prier. Il donna sa torche à Aléa, puis se baissa et passa la main le long du mur gauche. À tâtons, il fit glisser sa paume sur la surface rocheuse. Presque tout son corps était sous l'eau froide du tunnel, mais le magistel ne tremblait pas. Lentement, il sonda le sol et les parois. Il ne trouva rien. Il se leva et recommença sur l'autre mur.
Soudain, sa main s'arrêta tout près du sol.
« Ici, il y a un passage !»«
Oh, je ne pourrai jamais entrer là-dedans !»
s'écria Aléa, terrifiée.
« Je vais y aller, » proposa Galiade. « Il n'y a pas d'autre moyen. »«
Je vous accompagne, »
rétorqua Félim. « Non, restez ici avec Aléa et Faïs. Elles ont davantage besoin de vous. De toute façon, je ne sais pas si je vais pouvoir aller très loin. »
Le druide acquiesça.
« Faïs, » reprit le magistel, « voulez-vous bien me prêter votre poignard ? Si je dois me battre sous l'eau, je ne crois pas que mon épée sera très efficace. »
« Bien sûr, »
répondit la barde en tendant son arme.
« Faites bien attention. »
« Ne vous inquiétez pas, je n'abîmerai pas la lame. »
« Je parlais de vous, imbécile. »
Le magistel sourit. Il enleva son harnois et les plaques de métal qui protégeaient ses jambes, prit sa respiration et plongea sous l'eau. Imala s'était endormie au creux du tronc d'arbre. Elle fut réveillée en sursaut par le bruit des chevaux. Son instinct la fit se redresser d'un coup. Les chasseurs étaient de nouveau sur sa trace. Elle entendit leur voix et le souffle des chevaux qui se rapprochaient. Les verticaux remuaient les bosquets et fouillaient la forêt à l'aide de leurs bâtons. Imala, impuissante et encore épuisée, se blottit au fond du tronc d'arbre. Elle ne pouvait plus fuir. Elle était trop fatiguée et ses deux blessures la faisaient souffrir. Soudain, elle entendit la voix d'un des chasseurs, juste au-dessus d'elle. Du pied, il fit bouger le tronc. La louve planta ses griffes dans le bois pour ne pas perdre l'équilibre. L'arbre arrêta de bouger. Elle vit alors la tête du vertical apparaître par l'ouverture à l'entrée de sa cachette.
« On n'y voit rien là-dedans !»
Imala ne sut si son prédateur l'avait vue. Elle se blottit encore davantage contre la paroi de l'arbre mort. Finalement, le chasseur disparut. Mais l'instant d'après, il revint avec un long bout de bois qu'il enfila lentement dans le tronc.
On va bien voir si le loup se cache là-dedans, par la Moïra!
Imala vit le bâton qui s'approchait peu à peu, agité d'une paroi à l'autre par le vertical qui fouillait l'intérieur du tronc. Bientôt la branche allait la toucher, et le chasseur saurait qu'elle était là.
Tu l'as trouvé, ce loup?
Cria une voix au dehors.
Pas encore!
Le bâton continua d'avancer vers elle, puis arrivé en bout de course, le chasseur entra son bras à l'intérieur afin d'aller encore plus loin. La branche s'arrêta juste devant le museau de la louve. Elle recula la gueule autant que possible, et quand elle se crut perdue, le vertical laissa tomber le bâton, abandonnant sa recherche.
Le loup n'est pas là! Continuons plus loin!
Imala entendit les pas des chevaux qui s'éloignaient, mais elle attendit jusqu'au lendemain matin avant d'oser sortir. Galiade se demanda combien de temps il pourrait tenir. À cet endroit, il n'y avait pas le moindre rayon de lumière. Il avait l'impression de flotter dans un rêve. Le magistel n'osait pas nager trop vite, de peur de rater une éventuelle sortie. Sous l'eau, dans le tunnel étroit, il éprouvait du bout des doigts les parois glissantes autour de lui. L'obscurité devenait oppressante et l'air commençait à lui manquer. Il allait falloir en garder dans les poumons pour faire le chemin inverse. Au bout de combien de temps devrait-il se résoudre à faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard? Il ne fallait pas céder à la panique. Il essaya de se concentrer sur la présence discrète du Saïman dans sa tête. Son lien avec Félim. Une petite flamme rassurante, toujours présente. Le tunnel semblait interminable. Il fallait qu'il s'arrête, cela devenait trop dangereux. Mais il ne pouvait abandonner Mjoln, il n'avait pas le droit. Il se concentra sur la flamme du Saïman qui flottait au cœur de son esprit et continua de nager. Ses tempes lui faisaient mal à présent. Son attention s'était relâchée quand soudain sa tête heurta la paroi. La douleur le saisit aussitôt. Il aurait voulu hurler. La panique monta en lui. Il fallait qu'il respire, il avait besoin d'air, il ne pouvait plus tenir. Il sentit son esprit commencer à vaciller. Il crut qu'il allait s'évanouir quand enfin il aperçut un rayon de lumière juste un peu plus loin. Un dernier effort. Le magistel poussa de toutes ses forces sur ses jambes et sur ses bras. Son élan le porta jusqu'à la surface. Il jaillit hors de l'eau, aspirant bruyamment pour remplir ses poumons de tout l'air qui lui manquait. Il inspira si fort qu'il faillit s'étouffer. Épuisé, il se retourna et se laissa flotter sur le dos en attendant de reprendre son souffle. Il vit alors que le lac souterrain dans lequel il avait abouti était au milieu d'une caverne gigantesque dont les murs brillaient d'un éclat singulier. Quand il eut repris ses esprits, il nagea lentement jusqu'au bord du lac. Les bruits de l'eau résonnaient sous la voûte immense. Il découvrit alors un spectacle étonnant. On avait amassé là un tas colossal d'objets brillants, des pièces d'or de tailles diverses, des épées aux lames entaillées, ornées de pierres rouges et bleues et vertes, bijoux, gemmes, armures anciennes gravées, aumes, argenterie, coupes dorées, un amas énorme et précieux, presque éblouissant. Galliard se demanda s'il rêvait. Il se leva péniblement sur la berge, dégoulinant. Du sang coulait du haut de son crâne, là où il avait heurté la paroi. Il était encore essoufflé, mais trop stupéfait pour s'en soucier. Soudain, il entendit un râle fébrile de l'autre côté de la colline dorée. Il s'avança lentement et aperçut à terre le corps immobile de Mjoln. Il se précipita à ses côtés et secoua le nain.
« Mjoln !» s'écria-t-il. « Réveillez-vous !»
La jambe droite du cornemuseur était en lambeaux. Du sang s'écoulait sur le parterre de roche. Le magistel lui donna une légère claque sur la joue, et Mjoln revint lentement à lui. balbutia-t-il en recrachant une pleine gorgée d'eau noirâtre.
« Mjoln !» souffla le magistel soulagé. « Vous êtes vivant !»
grommela le nain.
« J'en suis pas sûr. Où sommes-nous ?»
Galliard souleva la nuque de son compagnon et lui posa une main sur l'épaule. Il regarda autour d'eux. Il y avait des ossements éparpillés sur le sol. « Cela ressemble fortement à une tanière. Il va falloir partir d'ici très vite. Je pense que cette créature vous a laissé ici en espérant venir vous reprendre plus tard. »«
Je ne peux plus marcher. Mes jambes me font trop mal. Je ne sens plus ma cuisse droite, elle est dans un sale état, regardez !»
« Je vous porterai. De toute façon, j'ai bien peur qu'il nous faille retourner sous l'eau. Je vais avoir du mal à retrouver le tunnel. Il doit y en avoir plusieurs. À moins que... »
De l'autre côté du lac, il lui sembla apercevoir une ouverture. Le magistel se leva et prit le nain sur ses épaules.
« Alragan !»
s'exclama Galliard en serrant la main de son ami sur son dos. Il n'avait pas encore retrouvé toutes ses forces, mais il savait qu'il n'avait pas de temps à perdre. L'hydre allait sûrement revenir d'une minute à l'autre. Il assura la position de Mjoln derrière sa nuque et partit d'un pas rapide vers l'autre rive.
« Toutes ces richesses !»
se plaignit le nain en roquetant.
« On va pas les laisser ici ! Oh, c'est trop idiot ! Il y a de quoi racheter tout le pays ! Galliard, il faut emmener tout ce que nous pouvons !»«
Pas le temps !» répondit simplement le magistel.
C'est un cauchemar. Oh ! Tous les nains du monde ont rêvé de trouver un jour un trésor comme celui-là, et je peux même pas emporter une seule pièce. »
Galliard ne répondit pas. Il ne voulait pas s'essouffler. Le nain pesait lourdement sur ses épaules. Il contourna le lac par le bord, du côté où il avait pied. Arrivé devant l'ouverture de la caverne, il vit que c'était un nouveau tunnel, étroit, qui montait dans la roche. Au même instant, il entendit des bruits au milieu du lac. L'hydre revenait dans sa tanière. Galliard se baissa de peur que le nain ne se cogne, s'engouffra dans le nouveau tunnel et marcha aussi vite qu'il put. L'eau ne venait pas jusque-là et il y avait peu de chance, espérait-il, pour que l'hydre s'aventure aussi loin. Mais ce n'était pas une raison pour ralentir. Il n'avait plus qu'une idée en tête, sortir de cet endroit maudit une bonne fois pour toutes. Il marcha ainsi pendant bien longtemps. À chaque pas, le nain pesait un peu plus lourd sur ses épaules. Mais Galliard était tellement heureux d'avoir retrouvé son ami vivant qu'il ne perdit pas courage. Ce n'était pas le moment. Progressivement, la lumière qui venait de la caverne diminuait, et bientôt, ils furent de nouveau dans l'obscurité totale.
« Il vous reste des torches ?»
demanda le nain.
« Oui. » Mais cela m'étonnerait qu'on réussisse à les allumer après le bain qu'elles ont pris.
Le magistel ralentit le pas mais ne s'arrêta pas. Il se dirigeait à tâtons, en longeant les murs. Galliad commençait à ne plus pouvoir supporter cette obscurité. Il se surprit à perdre patience. Soudain, il entendit des murmures au loin. Il s'arrêta et fit descendre le nain de ses épaules. « Ne bougez pas !»«
Je risque pas !»
Bjoln avait du mal à tenir sur ses jambes. La douleur le faisait respirer bruyamment. « Vous entendez ?» Le nain essaya de retenir sa respiration. L'écho lointain de plusieurs voix se mélangeait en un bourdonnement incompréhensible.
« Oui, j'entends. Vous croyez que ce sont eux ?»
Galliad reprit sa respiration et cria.
« Aléa !»
Les voix s'arrêtèrent aussitôt. Il y eut un bref instant de silence, puis une voix aiguë répondit en écho.
« Galliad ?»
Le nain cria de joie.
« On est là !»
hurlait-il.
« On est là ! Eh oh, lanceuse de cailloux, tu m'entends ?»«
Par ici !»
Galliad reprit Mjoln sur ses épaules et se remit en route. Après quelques pas, il aperçut en contrebas un jeu de lumière qui ne pouvait venir que d'une ou deux torches. Il avança prudemment et s'arrêta là où le couloir débouchait, au-dessus d'un précipice. Plus bas, leurs trois compagnons étaient adossés à la paroi. Il se mit à genoux et se pencha pour leur faire signe.
« Nous sommes en haut !»
Félim, Aléa et Faith levèrent la tête en même temps et poussèrent un grand cri de soulagement.
« Par la Moïra, je n'avais même pas vu qu'il y avait un tunnel ici !»
s'exclama Félim.
« Vous êtes si haut !»«
Comment va Mjoln ?»
lança Aléa d'une voix étranglée.
« Ça pourrait aller mieux !»
avoua le nain.
« Mais je suis en vie. Je suis blessé à la jambe, mais je suis sûr que Félim pourra me soigner. »
Galliad sortit une corde du fond de son sac, une pointe épaisse et un marteau. Il enfonça solidement le bout de métal dans la roche et y accrocha la corde. Il lança l'autre extrémité dans le vide. « Mjoln, avez-vous encore assez de force dans les bras pour descendre tout seul ?»«
Je vais essayer. » »«
Vous avez beaucoup de courage, mon ami. » Le nain laissa glisser ses jambes dans le vide, en grimaçant, et saisit fermement la corde. Puis avant de descendre, il adressa un sourire au magistel.
« Merci, Galliad. J'ai une dette envers vous. »«
Allons, Mjoln, descendez. Votre lanceuse de cailloux vous attend. » Le nain se laissa glisser lentement le long de la paroi, jusqu'au sol, et à peine avait-il posé un pied par terre que déjà Aléa lui sautait dans les bras.
« Doucement, doucement, aïe !»«
On a eu si peur !»
chuchota la jeune fille en le serrant contre lui.
« Aléa, t'aurais dû voir, il y a un trésor incroyable là-haut !»
s'empressa de raconter le nain.
« J'ai jamais rien vu de si beau. Ah, oh ça oui, un sacré trésor. Il faut que nous y retournions, Aléa, dès que nous pourrons !»
Galliad descendit à son tour. Il tendit à Faith le poignard qu'il lui avait emprunté.
Pas une seule marque, assura-t-il.
La barde se contenta de sourire. Aïn Sultor et ses trois cavaliers s'approchèrent des restes du feu laissés par Aléa et ses compagnons au nord de la forêt de Velian. Le prince des Érylim descendit de son cheval. Sa longue cape noire claquait à chacun de ses gestes. Il alla planter son épée au milieu des braises. La lame fut parcourue d'étincelles.
« Que sont-ils venus chercher dans cette forêt ? »
gronda-t-il de sa voix ténébreuse. Les trois Érylim restaient immobiles sur leur cheval. Ils attendaient les ordres de leur maître en silence. Les animaux de la forêt s'étaient tus dès que le prince des Érylim avait posé le pied par terre. Il n'y avait d'autre bruit que le grincement léger des branches qui se balançaient au gré du vent. Le soleil lui-même semblait vouloir se cacher derrière une avancée de nuages épais. La lumière du jour diminuait rapidement.
« Asim !»
s'écria le prince en se retournant vers l'un des trois Érylim.
« Trouve-moi un de ces maudits lutins. Les lutins voient tout, entendent tout. Ils sauront où ils sont partis. Trouve-en un et amène-le-moi. »
Le cavalier tira sur ses rênes et fit faire demi-tour à son haut cheval noir avant de s'enfoncer dans l'obscurité de la forêt. Il revint quelques instants plus tard, entraînant un lutin par les pieds. La petite créature hurlait et se débattait. C'était un petit être frêle, plus petit même qu'un enfant, vêtu de tissus colorés, verts et rouges, avec des cheveux blancs frisés et une barbe discrète. Le cavalier descendit de sa monture et jeta le lutin à terre, aux pieds de Sultor. Le prince des Érylim pointa son épée sous la gorge du lutin. Ses yeux brillaient comme des silex noirs.
« La jeune fille et ses compagnons, où sont-ils allés ?»
Le lutin n'osa même pas répondre. Il tremblait de tout son corps. Sultor releva son épée, et cette fois, la planta violemment dans le sol, juste à côté de la tête de la petite créature sylvestre.
« Réponds, ou je te coupe en morceaux !»«
À Brocélia !»
balbutia le lutin.
« Elles sont allées à Brocélia !»
Un sourire de satisfaction se dessina sous la capuche du prince des Érylim.
« Sais-tu ce qu'ils allaient y faire ?»
reprit-il en soulevant lentement sa lame au-dessus du lutin.
« Ils cherchent l'arbre de vie !»
cria sans attendre la créature terrifiée. Aussitôt, l'épée s'abattit vers le sol dans un large mouvement circulaire, emportant au passage la tête du lutin dans un jet de sang clair. Le prince des Érylim souleva doucement son épée dans les airs et tourna sur lui-même. Narquois, il montra sa lame aux dizaines de lutins qui, soupçonnait-il, avaient observé la scène dans les arbres. Puis il éclata de rire et regagna sa monture. D'un seul geste, il ordonna aux trois autres de se mettre au galop. Félim offrit à ses compagnons quelques fruits secs qu'il avait gardés dans son sac.
Cela vous aidera à reprendre des forces.
Il avait soigné Mjoln, qui, même s'il avait encore du mal à marcher, ne semblait plus trop souffrir. Quant à Galiad, il avait lui-même pansé sa blessure au front. Aléa vint voir le nain pour le serrer dans ses bras de nouveau. Elle avait eu si peur qu'elle n'arrivait pas à maîtriser sa voix. Mais juste avant de l'embrasser, elle s'immobilisa brusquement.
« Mjoln !» s'écria-t-elle. « Tes cheveux ? « Ta barbe ?»«
Eh bien ?»
demanda le nain, interloqué.
« Ils sont blancs, tout blancs !»
Les trois autres s'approchèrent du nain et essayèrent de voir ce dont parlait Aléa, malgré la pénombre du couloir. Faye s'écarquilla les yeux, bouche bée. De fait, tous les poils et les cheveux du nain étaient devenus blancs.
« Alors ?»
insista Mjoln. Hésita la barde.
« En effet, par la Moira, Aléa dit vrai. »
Le nain baissa la tête et tira sur le bout de sa barbe.
« Par la famille Abak !»
s'écria-t-il, horrifié.
« Comment est-ce possible ?»
Le druide s'approcha en souriant.
« Je ne pense pas que ce soit très grave, » le rassura-t-il. « C'est sans doute l'effet du traumatisme que vous venez de vivre. »
« Comment ça, c'est pas grave? Vous voulez dire que je vais rapidement retrouver ma couleur rousse ?»
Le druide grimaça.
« Non, je ne pense pas. Je crois que c'est définitif. Mais ce n'est pas grave, juste un changement de couleur en quelque sorte. »
La barde ne put retenir un petit rire.
« C'est pas drôle !»
s'offusqua le nain.
« Excusez-moi, je suis désolée, vraiment. Mais après tout... cette nouvelle couleur vous va fort bien.
C'est vrai,
intervint Aléa qui commençait à rire elle aussi.
Elle te donne plus de charme.
Le charme de la sagesse.
Le charme d'un vieillard, oui.
Se plaignit Mjoln.
Non, vraiment, ça vous va très bien. L'assura Galiad à son tour.
Vous trouvez ?
Grogna le nain.
Bon, alors arrêtez de me regarder comme ça. Et maintenant, que fait-on ?
Faith et Aléa pouffèrent. Elles étaient certes embêtées pour le nain, mais cela faisait du bien de souffler un peu après les épreuves qu'ils venaient tous de traverser.
« On ne va pas abandonner après avoir fait tout ce chemin, » suggéra le magistel. « Nous devons traverser cette rivière. Restons simplement sur nos gardes cette fois-ci. »
Personne n'était très enthousiaste à l'idée de retourner dans le cours d'eau souterrain, mais tous savaient qu'il avait raison. Il fallait aller jusqu'au bout.
« Félim, vous devez m'apprendre à maîtriser mon pouvoir », déclara soudain Aléa.
Tous les yeux se tournèrent vers la jeune fille.
« Comment le pourrais-je ? »
répliqua Félim, pris de court.
« Je ne suis pas... Samil Danak. »
Non, mais je pense que si vous m'appreniez au moins comment vous maîtrisez votre propre pouvoir, peut-être pourrais-je comprendre le mien.
C'est-à-dire, peut-être, mais tu es... une fille. Je ne saurais pas comment faire.
C'est ridicule, Félim. La Moïra vous a prouvé qu'une fille pouvait recevoir le Samil Danak. Doutez-vous maintenant qu'une fille puisse recevoir votre enseignement? Ou plutôt, le redoutez-vous?
Nous verrons. Je ferai ce que je pourrai pour t'aider, Aléa, je te le promets. Mais sortons d'abord de cet horrible endroit.
La jeune fille acquiesça en silence, mais elle ne paraissait pas satisfaite. Elle aurait voulu que le druide lui fasse davantage confiance. Ce n'était pourtant pas le moment de commencer une dispute.
« Je vais ouvrir la marche cette fois-ci, »
annonça le druide.
« Galiad, vous resterez derrière. Et faites bien attention, la première hydre nous a attaqués par l'arrière. »
Faïs tapa sur l'épaule du nain.
« Allons-y, barbe blanche !»
s'écria-t-elle tout sourire. Ils se mirent rapidement en route. Aléa se plaça juste derrière Félim et le regarda avec attention. Le druide semblait préoccupé. Après quelques pas, elle vit les flots d'énergie qui pénétraient le corps du vieil homme. C'étaient des nappes rougeâtres, si légères qu'elles étaient presque invisibles, mais Aléa, elle, les discernait sans peine. Le Saïman. Il flottait autour de Félim, puis s'engouffrait dans l'eau quelques mètres plus loin. Aléa essaya de comprendre. Le druide projetait son pouvoir devant lui, comme s'il avait voulu balayer le sol à ses pieds ou inspecter les environs. Cela n'avait pas l'air très compliqué. Elle était déjà parvenue à contrôler son énergie avec la barque de Saïmina. Elle pouvait sûrement recommencer aujourd'hui. Il suffisait d'essayer. Tout en continuant de marcher, elle cherchait la lumière au milieu de son front. Pour la première fois, elle la trouva presque aussitôt. L'exercice était devenu plus facile. Elle savait maintenant comment l'allumer en un instant. Ou plutôt, la raviver, car la flamme, elle venait de le comprendre, était toujours là, prête à grossir. Aléa fit grandir la lueur dans son esprit et se laissa pénétrer par les effluves chaudes du Saïman. Elle essaya de diriger sur son propre corps les mêmes flots d'énergie qui entouraient Félim. Elle eut du mal à fixer son attention autour d'elle, trop concentrée sur son exercice mental. Elle faillit perdre la flamme, mais elle renforça sa concentration et la lueur dans son esprit reprit toute sa vigueur. Elle tenta une nouvelle fois de détacher lentement son regard. Petit à petit, elle parvint à maintenir le Saïman dans son esprit et à voir clairement autour d'elle en même temps. Elle remarqua alors que l'énergie qui la pénétrait n'avait pas la même couleur que celle de Félim. Cela signifiait-il que l'énergie masculine était rouge et que l'énergie féminine était bleue? Était-ce si simple? Et cela avait-il la moindre importance? Elle devait imiter Félim, contrôler son pouvoir et le projeter devant elle, à ras de terre. Elle inspira profondément et réunit toute son énergie. Elle ne savait pas vraiment comment elle avait fait, mais elle y arriva à peu près. Le Saïman était là, blotti contre sa poitrine, et d'un seul coup, elle le poussa devant elle. Par la force de sa pensée, elle lui ordonna de partir en avant. Elle retrouva les sensations qu'elle avait eues au pied de Saïmina, quand, d'instinct, elle avait envoyé le Saïman chercher la barque. Au même instant, Félim poussa un cri. Aléa sursauta et perdit aussitôt le contrôle du Saïman. La flamme s'éteignit d'un seul coup dans son esprit.
« C'est toi qui as fait ça ! »
s'écria Félim en attrapant la jeune fille par les épaules. Aléa ne sut que répondre. Le druide avait l'air furieux.
« Que se passe-t-il ? » demanda Galiad, inquiet.
Félim regarda Aléa dans les yeux, la dévisagea silencieusement avant de la relâcher en soupirant.
Tu m'as fait peur, Aléa. J'ai cru que... Enfin... Tu pourrais prévenir quand tu essaies de...
Mais de quoi parlez-vous ? S'impatienta Face.
Rien. Excusez-moi,
répondit Félim.
C'est de ma faute. Allons-y, nous sommes presque arrivés. Je crois voir la fin du tunnel.
Il se remit en route, suivi de près par la jeune fille, embarrassée. Les trois autres se regardèrent d'un air stupéfait, mais Mjoln haussa les épaules et leur fit signe de continuer.
« Des histoires de magiciens, oubliez ça !»
chuchota-t-il avant de repartir en boitant. Devant, Aléa fit quelques pas à côté de Félim, hésitante, puis elle se décida à parler.
« Vous avez senti quelque chose ? » demanda-t-elle tout bas.
« Rien du tout. J'ai rêvé, voilà tout. »
répondit Félim sans la regarder.
« Non, vous avez senti mon Saïman. J'ai voulu vous imiter. J'ai voulu faire exactement la même chose que vous. J'ai essayé de projeter le Saïman devant moi. »
Félim tourna la tête en levant un sourcil.
« Comment sais-tu ce que je faisais ?»«
Je vois le Saïman. Je le vois autour de vous quand vous vous en servez. »
« Tu joues avec des forces que tu ne maîtrises pas !»
Aléa soupira.
« Vous êtes le pire professeur au monde, Félim. »«
Tu n'es pas mon élève! Tu devrais oublier tout ça !»
Tout à l'heure, vous avez dit...
« C'était tout à l'heure. Maintenant, sortons d'ici. Un point, c'est tout !»
Aléa ralentit et passa derrière le druide. Elle n'arrivait pas à le comprendre. Parfois, il semblait disposé à l'aider. Et soudain, il la rejetait. Au fond, aussi incroyable que cela pût paraître de la part d'un druide, il devait avoir peur. Mais elle aurait aimé qu'il essaie de la comprendre. Elle était sûrement encore plus terrifiée que lui par ce pouvoir dont elle ignorait tout. Ils marchèrent encore un bon moment avant d'apercevoir enfin le bout du tunnel, en hauteur. La lumière blafarde de la lune s'engouffrait légèrement par l'ouverture. Ils accélérèrent tous le pas, soulagés à l'idée de pouvoir enfin respirer l'air du dehors. Ils se précipitèrent vers la sortie tous ensemble et retrouvèrent avec émotion la couleur du ciel au-dessus d'eux. Ils découvrirent alors autour d'eux une clairière identique à celle par laquelle ils étaient entrés, et quand leurs yeux s'habituèrent enfin à la lumière de la lune, ils virent qu'ils étaient cernés par des sylves. Ils se regardèrent stupéfaits.
« J'espère qu'on les dérange pas !»
murmura Mjoln. Les sylves ne bougeaient pas. Leur peau se confondait ici et là avec les arbres. On pouvait en distinguer une cinquantaine, mais ils étaient sûrement bien plus nombreux, camouflés parmi les branches.
« Face, est-ce bien la forêt de Brocélia ?» chuchota Aléa.
« À n'en pas douter, » répondit la barde. La jeune fille inspira profondément et fit quelques pas timides en avant.
« Laisse-moi faire !»
murmura Félim. Non. Aléa, de la voix la plus assurée qu'elle put, lança.
« Je suis Aléa, et je suis venue voir Oberon, votre roi. »
Un long silence. Ses propres compagnons la regardèrent d'un air gêné. Puis un sylve s'approcha de la jeune fille, sur ses gardes, alors que les autres restaient immobiles derrière lui.
« Vous avez trouvé le passage ?» « L'un des vôtres nous a montré le chemin, » expliqua Aléa. « Mais vous avez trouvé la sortie. C'est le signe. »
Au même instant, un nouveau sylve apparut au milieu des arbres. Les autres, comme par magie, s'écartèrent sur son passage avec déférence. Aléa reconnut tout de suite Oberon. Tous les sylves étaient beaux et gracieux, mais lui l'était encore davantage. Il y avait quelque chose de majestueux dans sa démarche, quelque chose de noble dans son maintien. Il s'avança lentement vers Aléa, tout en adressant quelques mots en sylve à ses compagnons.
« Etayan el nalea, shanwa le manan boralian. »
Il s'arrêta devant la jeune fille et la salua. Aussitôt, tous les sylves de la forêt posèrent un genou à terre et chuchotèrent un mot qu'Aléa ne put comprendre, mais elle supposa que c'était une marque de respect. Elle sentit le rouge monter à ses joues. Elle n'avait pas l'habitude d'être ainsi la cible de tant de regards.
Nous vous attendions, Kaeliana.
Faith posa une main sur l'épaule de la jeune fille et lui chuchota à l'oreille.
C'est le nom qu'ils donnent à leur, disons, à l'équivalent du Samil Danak chez les Sylves. Voilà.
Et qu'est-ce que cela veut dire?
Je ne sais pas. Il faudra leur demander,
murmura la barde. Aléa salua le Sylve à son tour, aussi humblement qu'elle put.
Bonjour, Oberon. Voici mes amis.
Le roi des Sylves adressa un sourire à la compagnie.
Un druide, son magistère et une barde. Vous êtes bien accompagnés, Kaeliana.
Et un nain aussi, oh!
Fit remarquer Mjoln en se dressant sur la pointe des pieds.
Vous devez tous avoir très faim. Nous allons vous préparer quelque chose.
Oberon se retourna et leva les bras. Tous les autres se mirent debout d'un seul élan. Les cinq amis assistèrent alors à un spectacle merveilleux. Soudain, au milieu des sylves, la clairière tout entière se mit en mouvement. Les lianes, les arbres, les feuilles, tout se mit à glisser, se dresser, s'enchevêtrer, tandis que petit à petit se construisait dans le cœur de la forêt un jardin, une longue table de festin, des bancs, des colonnes, qui s'élevèrent lentement, puis se prolongèrent en voûte pour créer enfin un toit de verdure au-dessus de la table. C'était comme un palais organique qui se bâtissait lui-même avec élégance, comme un gracieux balai de branches et de lianes.
« Par la Moïra !»
s'exclama Mjoln, qui n'en croyait pas ses yeux. Puis de nouveaux sylves arrivèrent dans la clairière, apportant avec eux de grands bols emplis de fruits et de baies qu'ils déposèrent un peu partout sur la table. Il devait y avoir une quarantaine de sylves qui, en moins de temps qu'il n'en fallait pour le dire, préparèrent un festin sous le regard perplexe des cinq humains, ébahis.
« Maintenant, vous pouvez venir manger », les invita Oberon.
Aléa et ses amis vinrent s'installer à la grande table. Ils s'assirent parmi les sylves. La plupart d'entre eux ne parlaient pas le gaélien, mais savaient se faire comprendre par des gestes délicats. Oberon fit signe à la jeune fille de s'approcher de lui.
« Combien êtes-vous dans cette forêt ?»
demanda Aléa, encore émerveillée.
« Nous sommes un. »
La jeune fille parut étonnée, mais elle n'insista pas. Les sylves avaient leur langage, leur façon de parler, et il fallait les prendre comme telles. Elle regarda ses compagnons, éparpillés aux quatre coins de la table. Ils commençaient avec joie le repas qu'on leur avait préparé. Ils se régalèrent et purent partager la bonne humeur des sylves parmi lesquels ils se trouvaient déjà en confiance. Ce fut un réel bonheur et un grand soulagement après la peur occasionnée par la traversée du tunnel et l'angoisse des derniers jours. Mjoln se gavait de nourriture et cela semblait amuser les sylves qui lui en apportaient toujours davantage. Faith, elle, fut vite assaillie par ses hôtes qui lui demandèrent de chanter. Elle s'exécuta avec bonheur et offrit à l'assemblée de bien belles chansons. Félim et Galiad restèrent côte à côte, mais ne refusèrent pas l'amitié des sylves à qui ils racontèrent, en partie, l'aventure que vivait la compagnie et la raison de leur présence ici. Félim parlait sylve par moments, et l'on sentait une affection particulière entre lui et les habitants de la forêt. Petit à petit, les sylves éprouvaient de moins en moins de mal à parler le gaélien. Comme par magie, ils semblaient apprendre très vite la langue de leurs interlocuteurs au fur et à mesure des conversations. Quant à Aléa, elle ne dit pas un mot de la soirée, mais écouta avec attention autant de conversations qu'elle le put. Les sylves lui adressaient régulièrement des sourires chaleureux et respectaient son silence. Elle comprenait petit à petit ce qu'avait voulu dire Oberon en lui répondant « Nous sommes un ». Ils semblaient partager leurs pensées, leurs savoirs, et c'était sans doute ainsi qu'ils pouvaient apprendre si vite à parler le gaélien. Ils apprenaient tous ensemble tant de mots, tant de phrases à la fois, qu'ils faisaient les progrès cumulés de 50 personnes. Aléa se dit qu'ils avaient une chance extraordinaire. Tard dans la nuit, les conversations commencèrent à s'éteindre les unes après les autres, et bientôt, il ne resta plus personne pour parler. Seule restait la musique de Faith, qui emplissait avec douceur le silence de la nuit. Après quelques chants, Oberon s'adressa enfin à Aléa.
« Nous pouvons te montrer ce que tu cherches. »«
Vous savez ce que je cherche ?»«
Ton rêve nous l'a dit. » »«
Je ne suis pourtant même pas sûre de le savoir moi-même. » »«
Allons, tu sais. » Ce que tu cherches, c'est ce que vous, humains, appelez l'arbre de vie. C'est pour cela que nous t'avons appelé, car il doit en être ainsi. Mais tu dois nous donner quelque chose en échange, petite humaine.
De l'autre côté de la table, Face s'arrêta de jouer. Tous les regards s'étaient tournés vers Oberon et Aléa.
Je t'écoute. Répondit la jeune fille. Et par ce tutoiement, elle s'adressait à tous les Sylves. Elle le fit en posant un regard circulaire sur l'assemblée, de telle sorte que tous comprirent que c'était un hommage qu'elle leur adressait. Elle voulait montrer qu'elle les comprenait.
« Tu devras nous donner la vie. »
Félim tourna brusquement la tête vers Oberon. Aléa vit l'inquiétude dans ses yeux, mais elle lui adressa un sourire pour le rassurer. Puis elle s'adressa de nouveau aux Sylves. « Comment cela ?»«
Tu comprendras sans doute quand tu auras vu ce que tu cherches. Et un jour, dans longtemps sans doute, nous nous retrouverons. Et tu auras ce jour-là l'occasion de nous donner la vie. Promets que tu feras ceci, et nous te montrerons ce que tu cherches. »
J'ai du mal à promettre quelque chose que je ne comprends pas, Sylve. Mais je te fais confiance. Et si je peux un jour te donner la vie, que tu me montres ou non l'arbre que je cherche, je le ferai.
Tous les Sylves se mirent à chuchoter, et Aléa comprit que c'était l'expression de leur satisfaction.
Maintenant, tes amis doivent aller dormir. Nous leur avons préparé une maison pour la nuit.
« Je préfère accompagner Aléa, » intervint Galliad en se levant.
« Impossible, » répliqua le Sylve.
« Ne vous inquiétez pas, Galliad, nous sommes en sécurité ici, » lui souffla Aléa.
Le magistel chercha quelque avis dans le regard de Félim. Le druide acquiesça en fermant les yeux. Il savait que ceci était écrit, qu'on n'allait pas contre le sens de la Moïra. Il adressa à Aléa un sourire où se lisait en filigrane une inquiétude amicale. La jeune fille se leva à son tour et salua ses quatre compagnons, qui partirent avec des Sylves un peu plus loin, dans une cabane faite d'arbres et de lianes. Elle les vit disparaître à l'intérieur avec un pincement au cœur. Au fond d'elle, elle regrettait de devoir découvrir toute seule l'arbre de vie. Mais tel était le souhait des Sylves, et elle ne pouvait s'y opposer. Tout autour, la clairière reprenait petit à petit sa forme initiale. La table se déconstruisait, le toit se retirait, les branches et les lianes retrouvaient la position qu'elles avaient eue avant de se mettre en mouvement. Alors Oberon s'approcha d'Aléa, la prit par la main, et la guida au centre de la clairière, où il lui fit signe de s'asseoir. La jeune fille se laissa faire, éprouvant la douceur de la peau boisée du Sylve au creux de sa main. Malgré son appréhension, elle se sentait en confiance avec l'homme qu'elle avait vu en rêve.
« L'arbre est ici ?» demanda-t-elle.
« Chut, ne parle plus, Kailiana. »
« Oberon, attends, une dernière chose. »«
Vous m'appelez Kailiana. Qu'est-ce que cela veut dire ?»«
Kailiana, en sylve, signifie... » Fille de la terre.
Aléa resta bouche bée. C'était déjà le surnom que lui avaient donné les enfants de Sarathea, longtemps avant qu'elle ne trouve la bague dans la lande. C'était même devenu son cri de guerre à l'époque.
« Je suis la fille de la terre !»
Était-ce une coïncidence? Quel sens cela pouvait-il avoir?
Les uns après les autres, les Sylves vinrent s'asseoir autour de la jeune fille. Il y avait là les 50 qui avaient participé au repas, puis d'autres encore qui ne cessaient d'arriver. Bientôt,
Aléa ne parvint plus à savoir combien ils étaient. Ils semblaient si nombreux. Et toujours en silence, ils s'asseyaient autour d'elle dans un cercle gigantesque qui emplit bientôt toute la clairière. Aléa avait de plus en plus peur, mais elle réalisa soudain que le Saïman montait en elle, sans même qu'elle ne l'ait invoqué. Et il était plus fort que jamais. Comme si la présence de tous les Sylves ravivait à elle seule la flamme dans son esprit. Alors qu'elle ne l'avait pas cherché, il devenait envahissant. Il la saisissait complètement. Soudain, elle vit les corps des Sylves, couleur de bois, se fondre les uns avec les autres. D'abord leurs bras, leurs jambes, puis leur corps tout entier s'unissait dans un enchevêtrement étrange. Et petit à petit, l'assemblée des Sylves se transforma en une gigantesque forme unique, qui, comme la forêt un peu plus tôt, se dressa en une construction merveilleuse. La forme colossale se souleva ensuite, impressionnante, et Aléa vit que c'était un arbre géant qu'on construisait autour d'elle. Un arbre fait de Sylves qui se dressait vers le ciel et se resserrait sur son corps à mesure qu'il s'élevait. Emplie par le Saïman, elle n'éprouva aucune peur et se laissa envahir par l'arbre dont elle devint elle-même le cœur. Soudain, la jeune fille bascula dans la mémoire des Sylves et ce fut comme un rêve. Il lui sembla qu'elle perdait conscience et que son esprit flottait dans l'histoire, dans le passé des Sylves, dans leur futur, dans les milliers de légendes de ce peuple mystérieux. Et elle comprit. Le Saïman, le Samildanak, les Sylves, l'arbre de vie, tout cela n'était qu'un. C'était le cœur de la terre, l'âme du monde, la sève de la vie. Elle vit les Sylves, qui n'étaient qu'un. Elle vit qu'ils étaient l'arbre de vie, ses feuilles, ses branches, son tronc et ses racines. Elle vit le Sylve qui naissait au printemps puis mourait à l'hiver, une qui ne cessait de recommencer. Toujours la même vie, le même Sylve, la même mémoire. Celle du monde. La mémoire de la terre. Elle vit l'éternité des feuilles de l'arbre, celles qu'on offrait au roi pour leur céder un an de vie. Elle vit Maol Morda siéger à la chambre du conseil, puis le quitter. Elle vit un autre druide, Samael, lui aussi disparu. Elle vit qu'ils étaient les deux forces sombres qui s'uniraient contre elle. Elle vit tout cela et comprit la légende dont parlaient les hommes. Ce n'était pas une légende. C'était la vie, simplement. Et tout au bout de cette vie, de cette légende, elle se vit, elle, enfin. Elle ne comprit pas tout de suite l'image qu'elle voyait d'elle. Puis elle vit qu'elle tenait un enfant. Elle était mère. Puis l'instant d'après, elle était une vieille femme. Soudain, elle fut envahie par une vision horrible. Dans un immense chaos, avec elle mourait l'arbre, les Sylves, les druides, et puis tout s'éteignit d'un seul coup. Le néant tout entier l'avait recouverte. Il ne restait rien, pas même le battement d'un cœur. Et cela, elle ne put le comprendre. Au même instant, elle se réveilla en sursaut au milieu de tous les Sylves, allongée, immobile. Il semblait dormir autour d'elle. Avait-elle rêvé? Combien de temps avait passé? Un à un, les Sylves se levèrent et disparurent dans les bois jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Oberon. Aléa était bouleversée, confuse, perdue, seule. La gorge nouée, elle se leva à son tour et marcha vers le Sylve. « Je suis votre mort ?» demanda-t-elle. « Kaïliana, tu pourras nous donner la vie et à bien d'autres choses. N'oublie jamais cela. » Et ne te mets pas en péril tant que tu n'auras pas fait tout ce que tu as à faire. » répondit le Sylve en posant sa main sur la joue de la jeune fille. « Tu as promis, nous avons besoin de toi. » « Mais je ne sais pas ce que j'ai à faire. Comment le saurais-je? Qui me guidera ?» Le Sylve sourit, mais ne répondit pas.
Il posa un baiser sur la joue de la jeune fille et la laissa seule au milieu de la clairière. Arrivé là où la forêt se fondait dans l'ombre, il se retourna une dernière fois et dit seulement avant de disparaître.
Dors maintenant et demain, fais ce que tu dois. Tu devras accomplir les trois prophéties.